La Commu Paris Centrale, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission. Comme vous pouvez le voir, on est de retour en plateau après la dernière émission qui s'était passée lors de Borussia Dortmund Paris Saint-Germain où on avait effectué nos débuts ici même dans ce plateau pour débriefer le match nul entre ces deux équipes. On revient aujourd'hui pour un programme bien chargé. On va revenir sur la victoire du Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions face à Toulouse 2-0. On va faire un bilan de la première partie de saison de Luis Enrique et des Rouges et Bleus. On va aussi parler du Mercato et voir quelles seront les pistes à aller chercher aujourd'hui après la blessure de Milan Skriniar. On y reviendra un petit peu plus tard. Et bien entendu, on va interagir avec vous et introduire la petite minute vocale parce qu'un de nos auditeurs nous a laissé un petit message. Je commence par présenter mes compères à ma droite. Basto, comment ça va ?
Très bien, bonne année à tout le monde.
Comment ça va, Rico ?
Ça va, pareil, on est content d'être là et bonne année effectivement à tout le monde. Et puis en plus, un trophée hier soir, donc ça fait plaisir, on démarre bien l'année.
Exactement, 12e trophée pour le Paris Saint-Germain, il faut le rappeler, lors des trophées des champions. À ma gauche, comment ça va ?
Bonjour à tous, bonne année, même si ça fait chier, mais bon, on n'a pas le temps. c'est la tradition pendant encore un mois, donc longue vie à tous.
Et à ma gauche, encore une fois, le patron du vestiaire qui, grâce à lui, on est ici. Comment ça va, Jean-Marc ?
Ça va très bien, merci. Oui, effectivement, je dirige Canal Chat qui vous héberge avec plaisir et qui vous accompagne avec le plus grand plaisir sur vos lives.
En tout cas, on vous remercie par rapport à ça. Alors, on va commencer sans plus tarder par rapport au match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Une victoire 2-0 à domicile, étant donné que la LFP n'a pas pu trouver de stade à l'étranger. C'est ballot, mais ça permet aux Rouges et Bleus et à nos supporters de pouvoir en profiter et d'aller supporter notre équipe. Je commence avec toi, Basto, par rapport au match. Tu nous as été un peu critique, en gros, dans le groupe privé qu'on a. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette victoire ?
Je remplace Darias qui n'est pas là pour le rôle de l'aigri. Donc... non, c'est pas ça, c'est que je me suis un peu ennuyé hier. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps qui m'a malheureusement rappelé... on va dire la période Laurent Blanc un peu redondante, un peu soporifique, même si on marque très vite. Donc derrière, on est dans cette ultra-gestion qui est un peu parfois problématique sous Enrique et beaucoup de mal à remonter le ballon rapidement, même si on a une période en milieu de première mi-temps où on enchaîne les occasions. Malgré ça, on arrive contre un Toulouse qui n'existait pas, hein, qui n'est même pas venu pour presser ni bloc bas. Toulouse n'est même pas venu pour jouer au foot hier. Et malgré ça, on concède deux grosses occasions, dont un poteau. Donc ça, c'est la première mi-temps. Et en seconde, je crois que 12 tirs à 2 pour Toulouse. Donnarumma qui est l'homme du match. Donc là, on arrête complètement de jouer. Et là, Enrique a rendu hommage à Galtier en disant que le trophée lui revenait aussi puisqu'il avait été champion de France. Et bah, il a aussi rendu hommage à Galtier avec notre performance en deuxième mi-temps qui nous faisait penser aux performances l'année dernière.
Toi, Recoba, avant que je te laisse parler de cette victoire, il faut aussi revenir au système du faux numéro 9 qui tend à se pérenniser sur les derniers matchs. Là, on a vu Kylian Mbappé qui était plutôt à son aise. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de la victoire du Paris Saint-Germain et de ce nouveau système qui pourrait devenir la référence pour le PSG ?
Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. Là, on l'a vu hier, il a mis un petit peu son équipe type, notamment les trois de devant qui a reconduit très souvent ces dernières semaines. Il y avait Dembélé qui était blessé, qui était suspendu. Et aussi, il y a eu une petite gêne aussi musculaire à un moment donné. Mais on voit bien que c'est le trio qui veut mettre en place Barcola, Mbappé et Dembélé. Donc je pense que ça va durer encore un petit moment d'avoir Mbappé en pointe. En plus de ça, Kolo Muani, quand il rentre, c'est un petit peu compliqué. Et pour le coup, il rentre sur un côté, il ne rentre même pas en pointe. On a pu voir Asensio rentrer aussi hier, qui a joué sur le côté, alors qu'en début de saison, il avait démarré en faux neuf. Ramos, il est au placard depuis un petit moment. On l'a plus revu, on n'a pas trop de nouvelles. Donc je pense que ça va durer encore comme ça un petit moment. Maintenant, il y a sur certaines phases où on peut voir qu'Mbappé est quand même très important. Sur le premier but, on le voit quand il fait son appel dans la surface, il y a trois joueurs qui le suivent et que ça libère l'espace pour Kanginli derrière. Donc il y a quand même des moments où il est important, mais on a pu le voir aussi sur le but qu'il met. Ça part du demi-espace gauche, il est face au jeu, il peut accélérer, rentrer et frapper et il marque. Donc il a des qualités qui lui permettent de bien jouer au poste de neuf, mais il a des grosses qualités qui font que je pense qu'il est mieux dans ce demi-espace gauche. Maintenant, je pense que ça va durer encore un petit moment, donc on va devoir s'adapter. Et pour ce qui est de la victoire hier soir, bon, c'est vrai qu'au niveau du jeu, c'était pas flamboyant. Après, on a marqué quand même très vite dans la rencontre, donc forcément que ça change aussi tout le contenu. On marque fin de première mi-temps aussi, le 2-0. Donc tu peux penser que Toulouse est un peu terminée, on va dire, dans ce match-là. Paris revient en deuxième avec un petit peu plus de maîtrise, moins envie de se créer des occasions. Il y a une vraie différence entre la première et la deuxième mi-temps. Donc, je pense qu'on a fait le job. Un trophée, c'est un trophée. Une finale, ça se gagne. On l'a gagné. Maintenant, pour ce qui est des réactions de ceux qui sont contents, pas contents, on en reparlera peut-être, parce que j'ai des choses à dire là-dessus, mais moi je suis content, en tout cas on a gagné cette finale 2-0 et c'est très bien comme ça.
Jean-Marc, dans l'utilisation qu'on a vue pour Kylian Mbappé, toi est-ce que tu as été satisfait de son match?
Alors déjà, il faut que je sois honnête, hier c'est rare, mais j'ai raté le match parce que j'étais en déplacement, j'ai vu un long résumé après. Donc, alors Kylian Mbappé, ben, je vais faire le vieux sur ce plateau hein, évidemment. Moi, l'évolution de Kylian Mbappé, d'abord je suis un fan absolu, et son évolution, elle fait penser à celle de Thierry Henry, et sauf que je pense que Kylian Mbappé est encore plus fort que Thierry Henry, qui était déjà un monstre. Et Thierry Henry, il ne faut pas l'oublier, il a commencé à jouer à gauche, et au fur et à mesure de sa carrière, il s'est recentré. Arsène Wenger l'a fait jouer plutôt dans l'axe, et cette ordure de Domenech aussi en équipe de France. Et donc, je pense qu'à un moment, un attaquant, s'il veut donner sa plénitude, il est obligé de alors après c'est son coach qui décide évidemment, mais il est obligé de se recentrer, et c'est vrai que comme tu le disais, bon bah Ramos il est tricard, Colomoigny c'est pas ça, donc je pense qu'il fait plus que dépanner. Je pense que Luis Enrique il bâtit son système d'attaque en tout cas autour de lui avec deux ailiers qui sont capables de lui apporter des bons ballons, et je trouve que c'est pas si bête que ça, même si je suis pas un grand fan de Luis Enrique.
Barry, on parle d'utilisation, on parle de système. Hier, on a vu Vitinha placé en numéro 6, très à son aise, décisif sur l'ouverture du score. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Bah déjà, moi, pour commencer, je suis pas du tout d'accord avec Basto, parce que hier, pour commencer, hein, la première de l'année, comme d'hab, ouais, j'étais au stade.
Donc c'est toi qui...
Non, pas forcément, mais en fait, je suis pas d'accord parce que, en fait, on jouait face à une équipe qui était très bas, qui jouait très bas comme chaque année, comme tout le temps avec le Paris Saint-Germain quand on joue une équipe de Ligue 1. Mais là, c'est vrai que c'était anormalement bas, et comme l'a dit Basto, et là j'étais d'accord avec lui, on jouait contre une équipe qui ne voulait pas jouer en fait. Une équipe qui même en contre-attaque ne donnait pas l'impression d'avoir envie d'aller chercher cette victoire. Donc en fait, au final, il y avait le Paris Saint-Germain qui déployait. Et donc forcément, quand tu joues face à une équipe qui se regroupe à 11, des fois tu as même l'impression qu'ils sont 12, 13, voire 14, tellement ils sont regroupés. C'est compliqué de trouver des décalages, mais on les a quand même trouvés. Il y a eu beaucoup d'occasions où moi je me suis beaucoup plus sur ce match-là, malgré qu'il n'y avait pas le cup. Je trouvais que voilà, ça tournait bien. Il y avait des joueurs qui étaient un peu plus à leur aise. J'ai trouvé un Kylian Mbappé et un Dembélé. Alors vu du stade, ils avaient un surclassement technique par rapport au reste de l'effectif. C'était incroyable, les petits espaces, etc. Voilà. Donc moi j'ai trouvé un Paris Saint-Germain intéressant, et j'ai trouvé qu'on avançait bien avec avec Luis Enrique. Moi, j'avais un peu peur de me dire, bon, les gars viennent de vacances, est-ce qu'ils vont se donner à 100%, etc. Mais en fait, au final, non. Ils ont eu envie d'aller chercher cette victoire, et on est parti la chercher. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à Kylian Mbappé, bah, moi, je suis complètement d'accord avec Jean-Marc, parce que j'ai souvent fait cette analogie avec Thierry Henry. Et puis, à un moment, quand t'as un des meilleurs joueurs du monde, et je suis désolé, rien que sur la première partie de saison, je crois qu'il a plus de 20 buts en Ligue 1. Si je
19
pas,
buts.
19 buts, 18 buts, 18 buts, bientôt 20. Les gars, quand t'as un joueur comme 11 ça, de forcément...
Plus, 11 de plus qu'Akor Adams.
Voilà. Forcément, tu dois te dire que ce gars-là doit être libre. Parce que dans tous les cas, il va marquer. Hier, pendant un moment, il y a un petit calme, il y a un petit creux avant la période, avant la première période. Et là, tu te dis que ouais, bon, le Paris Saint-Germain va gérer le score pour rentrer avec le 1-0. Frappe, but. Tu vois, tu sais pas quand ça arrive. Il y a plusieurs occasions où tu te dis, bah, à un moment, il est à droite et tu vois qu'il fait des différences. À un moment, il est à gauche, il fait des différences. Forcément, quand tu as ce type de joueur-là, pour pouvoir avoir un jeu qui est efficient, il faut qu'il soit libre.
Et puis, je pose juste une question. Je ne fais pas ton job, mais je pose une question. Qui en Europe est capable de marquer ce but d'hier? Qui est capable de marquer ce but? Franchement, j'en vois pas.
Il y a Vinicius qu'on a mis un contre Liverpool.
T'as Mohamed Salah.
On n'a pas dit qu'il n'y avait que lui.
C'est vrai que ce type de but inspiré. Ce type de but inspiré, on avait quoi? On avait CR7, on avait Messi, on avait Neymar. Et c'est vrai que depuis quelques années, on les a beaucoup moins, ce type de but.
On peut ajouter Mohamed Salah, Vinicius à moindre mesure.
Salah, c'est joli but.
Donc voilà. Mais je poursuis avec toi, Rekoba, maintenant par rapport au 11 du Paris Saint-Germain qui a été aligné hier. Si on enlève l'absence de Hakimi et de Lee, que je vais revenir juste après, est-ce qu'on est sur le 11 définitif pour cette seconde partie de saison?
Définitif, je ne sais pas. Est-ce que Vitinha va durer au poste de 6? C'est une bonne question. Il a l'air de s'en satisfaire en tout cas, parce que bah, c'est vrai qu'il il lui manque cet impact physique pour vraiment solidifier la défense et pouvoir récupérer des ballons importants sur certaines phases. Mais on va dire que techniquement et de par son jeu, Il est très mobile, il demande beaucoup le ballon, il est très disponible. Donc forcément, quand tu as un 6 comme ça, ça te permet de relancer un peu plus facilement. On sait que quand il joue plus haut, on a tendance à lui reprocher de ne pas prendre assez de risques et de ne pas tenter certaines passes compliquées. Donc forcément qu'au poste de 6, c'est un petit peu plus adapté par rapport à son jeu. Il joue un petit peu plus latéral, prend pas trop de risques. Donc à ce poste-là, c'est vrai qu'il a l'air de... En tout cas, Luis Enrique a l'air d'être plutôt satisfait. Et puis pour le coup, il est quand même très bon, faut le souligner. Donc après, au niveau du trio de devant, comme j'ai dit, oui, je pense que ça va durer là-dessus. Et puis après, il y a Zaïre Emery. Bon, Kanginli, est-ce qu'on aura ce Vitinha Kanginli Zaïre Emery au milieu de terrain face à la Sociedad? Franchement, je pense pas. Il faut voir Ruiz, il faut voir si on recrute quelqu'un aussi. Et puis pour la défense, bon, bah, Skriniar, normalement, est out toute la fin de saison. Ouais. Donc je pense qu'on reverra Danilo, ou alors si on va chercher quelqu'un au Mercato, peut-être réaxer Hernandez. Et puis juste pour finir, par rapport à Mbappé, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est que CR7 a joué toute sa carrière à gauche, au Real. Oh.
Non, et 9 à la Juve.
Il finit 9, après il a plus de 31 ou 32.
Même au Real.
La deuxième saison de Zidane, il se réaxe. Moi, je me rappelle, il y avait beaucoup de débats qui disaient est-ce qu'il ne va pas manger. Bon,
jusqu'à ses 30 ans du moins.
Oui, il se réaxe, mais en gros, il est demi-espace gauche, comme Mbappé. Il se rapproche de l'axe, mais il n'est pas vraiment le 9, vraiment seul en pointe. Et Thierry Henry, pour le coup aussi, là où il a été exceptionnel à Arsenal, c'est aussi avec Dennis Bergkamp en pointe, dans ce 4-4-2. Là où Kylian Mbappé, d'ailleurs, excelle dans un 4-4-2, que ce soit avec Falcao, par exemple, ou avec Giroud. Donc oui, jouer en pointe avec quelqu'un, moi, je suis totalement d'accord, mais seul en pointe dans un 4-3-3 comme ça, moi, j'ai un peu du mal.
Ça s'entend.
Ouais, c'est pas faux.
Mais après, quand tu regardes bien, est-ce qu'il est vraiment dans l'axe? C'est de l'axe même. En fait, Kylian, si vous regardez bien, il est vraiment très libre.
Mais du coup, il manque une présence des fois dans la surface.
En fait, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on l'a vu au stade notamment. Et ça, on le voyait parce que sur certaines phases de jeu, quand Lee sur le terrain, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Lee. Il y a une sorte de quand Kylian Mbappé va décrocher, Lee va venir à la place de Kylian Mbappé, ou alors des fois des milieux. C'est vrai qu'hier, on l'a moins vu parce que tu avais quand même un effectif qui était à 6-8 dans l'axe, tu vois. Mais je trouve qu'en général, quand on joue avec Kylian dans ce positionnement-là, sauf quand Kylian n'est pas dans un grand jour, et on le voyait durant la première partie de saison, il y a toujours une présence à ce moment-là. Après, est-ce que la présence est efficiente? Là, je suis d'accord avec toi. Forcément, quand tu as un Lee ou tu as un numéro 9, ce n'est pas du tout la même chose, tu vois. Mais je trouve qu'il y a toujours une présence là-bas.
De toute façon, ça restera un problème qui va être à aborder, le problème du faux numéro 9. Pep Guardiola aussi en a fait les frais pendant beaucoup de saisons avant de recruter Erling Haaland. On va remercier Val qui a offert 5 subs à Paris Central et à certains de nos auditeurs. Donc voilà, ils pourront profiter des avantages. Basto, par rapport à Hakimi et Lee Kang-in qui ne seront pas là pour la Coupe d'Asie et la Coupe d'Afrique des Nations, deux joueurs qui sont dans des nations qui prétendent à remporter cette compétition-là, comment est-ce qu'on pourrait pallier leurs absences?
Plus important, c'est quand même Hakimi. Même si Lee a été 14 fois titulaire les 15 derniers matchs, on peut se demander pourquoi. C'est un autre débat au vu de ses performances. Mais il y a Ruiz qui revient. Je pense que Ruiz, même quand Lee reviendra, Ruiz peut gagner une place de titulaire parce que c'était lui au début qui mettait Ugarte sur le banc avant qu'il place Vitinha. Donc on peut très bien imaginer un milieu Ruiz, Emery et Vitinha. Donc Lee, je pense qu'on a les solutions pour le remplacer pendant cette période et même après. Hakimi, ça sera plus compliqué. On espère qu'il reviendra avant la finale. Enfin, on l'espère pas pour les Marocains, mais on l'espère pour nous parce que sinon il ratera le match aller contre la Sociedad.
J'espère qu'il sort dès les premiers temps.
Moi aussi.
Ouais, ça serait pas mal. Et sinon, pour le remplacer, je pense qu'on a vu les deux derniers matchs avant la trêve. Il a mis Hakimi sur le banc, Enrique, pour travailler ça. Donc, avec une espèce de système à trous. C'était Zaïre Emery qui avait un faux rôle de piston en phase défensive et qui se recentrait en phase offensive. Donc, je pense qu'il va rester là-dessus et travailler là-dessus.
Justement, est-ce que selon vous, avec ce système-là, est-ce que c'est quid de Nordi Mukele?
Ah oui, c'est ça. Moi,
à mon avis, ça va. Pour moi, il compte sur lui plus en centrale que sur la droite. Quand on voit que même Soler a dépanné latéral droit, techniquement, il est trop limité.
Je pense que Mukiele, c'est comme Ramos. Il a fait une ou deux trop bonnes performances pour ce coach. Du coup, il décide de les placardiser.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'il rentre pas du tout dans les choix du coach.
À gauche.
Quand tu regardes bien, tout le monde a tourné, tout le monde a pu jouer. Mukiele. Je crois qu'il a joué contre Monaco, si je n'ai pas de bêtises.
Monaco, Le Havre.
Et après. Donc, alors après, moi, ce n'est pas pour dire que le coach a tort ou a raison, ce n'est pas ce que je dis. On ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être que Mukiele ne rentre pas dans les choix du coach ou peut-être qu'il ne comprend pas les consignes du coach.
Oui, non,
moi, quand je l'ai vu sur le terrain, je l'ai trouvé intéressant. À gauche, je l'ai trouvé intéressant.
Moi aussi, je trouve qu'il était. Voilà. Ces trois matchs-là, il a été vraiment intéressant.
Mais du coup, ce qui est bien, c'est que. Moi, j'espère que Hakimi va sortir très rapidement pour le Paris Saint-Germain et pour mon pays qui est dans la même poule que lui. Donc, j'espère qu'il va sortir très vite. Mais au-delà de ça, il a une vraie carte à jouer, là, Mukiele. Il a une vraie carte à jouer. Hakimi n'est pas là. Donc à droite, il a une carte à jouer. Et à gauche, Nuno Mendes n'est pas
encore. Skriniar est blessé.
Voilà. Donc si tu mets. Alors, Skriniar est blessé. Donc là, moi, je suis désolé. Là, Mukiele a vraiment une carte à jouer. Et j'ai été un grand défenseur de Mukiele. Mais si ne saisit pas cette opportunité, les gars, on ne va pas pouvoir les défendre.
Et ça sera terminé.
Dans le jeu pour le saisir.
Ah, c'est ça, en fait.
Regarde, Ramos, il a joué 6 minutes en 8 matchs alors qu'il avait saisi son opportunité contre Monaco. Donc.
Plus en centrale qu'en dépannage de Hakimi, parce que clairement, on voit qu'il compte plus sur Zaïre Emery à droite. On l'a vu dépanner. On a vu aussi Carlos Soler. Parce que quand il y a Hakimi, on voit que les consignes ne sont pas les mêmes qu'avant. Hakimi se projette beaucoup, rentre dans le milieu, vient dédoubler aussi avec Dembélé. Et donc, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a une vraie qualité technique. On le voit aussi avec Lucas Hernandez quand il se projette. Techniquement, ce n'est pas Mukiele. Donc, défensivement, il est solide. Et je pense que du coup, on le verra, mais dans l'axe, dans une défense à 3 ou à 2, peu importe. Mais je pense qu'on ne le verra pas dépanner Hakimi.
On va demander au chat de pouvoir poser leurs questions pour qu'on puisse faire l'interaction. Mais on se retrouve juste après ce petit jingle. Alors, par rapport au chat, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, c'est votre petite tranche qui est réservée à vous. On a donc recruté Ugarte pour finalement placer Vitinha en 6. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ça? C'est la question de Spiral 20.
Ah là, faut me laisser répondre.
Vas-y.
J'étais un fervent défenseur d'Ugarte, mais faut dire les termes un peu. Ugarte, je suis désolé. Bon, très bon début de saison. Même excellent. Moi, personnellement, il m'a donné même plus que j'attendais. Parce que Balopié, c'est pas la bouche, j'attendais Ugarte. Uh-huh. C'était plutôt la récupération. Et Balopié, il a donné satisfaction. Les gars, entre la fin septembre, début octobre et décembre, parce qu'il n'a pas joué le trophée des champions, je suis désolé, Ugarte, quand même, il y a eu une grosse baisse de régime, et notamment dans les gros matchs. Uh-huh. Alors attention, je trouve qu'il y en a quand même qui font semblant, parce que Ugarte a été récupéré pour son talent de récupération. Et à la récupération, je suis désolé, Ugarte, qu'on le veuille ou non, depuis le début de la saison, il est exceptionnel. Il n'y a personne qui récupère autant de ballons que lui, si ce n'est peut-être Warren, dans les stats. Donc, il est exceptionnel à ce niveau-là. Mais c'est vrai que toutes les qualités qu'on avait vues balle au pied, on a eu du mal un peu à les voir. Et puis surtout, Ugarte, lorsqu'il tombe face à un joueur qui a du ballon, notamment Guimaraes, notamment, comment il s'appelait, le joueur du Milan, là, qui a fait un match
Benacer.
De fou. Benacer. Ouais. Elfutik, ouais, qui a fait un match de fou, d'ailleurs, on ne sait même pas comment il a fait, mais bon, bref, il a fait son match, c'est pas grave. Dès qu'il tombe face à ce type de joueur-là, même quand il était face à Léao, bah, Ugarte, il a beaucoup de difficultés. Donc, ça prouve qu'il y a des axes encore d'amélioration. Mais voilà, il ne faut pas non plus tomber dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse de régime qui est significative.
Après, ça, c'est un problème des supporters aussi. C'est-à-dire que Ugarte est arrivé, ils ne le connaissaient pas, ils ont commencé par le tailler. Mm. Ils ont vu 5 matchs où il a été meilleur balle au pied.
De toi, là.
Ah non, moi Ugarte, ça va. J'étais ni pour ni contre. J'étais plutôt contre dans le sens où pour moi, ce n'est pas un joueur qui est compatible avec Enrique, qui a besoin d'un 6 plus créateur.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Ça aurait été Nagelsmann le coach, ça aurait été très bien Ugarte. Non, c'est un joueur plutôt que j'apprécie au Sporting et avec l'Uruguay de Bielsa. Bref, mais c'est surtout qu'Ugarte, après 3-4 matchs, moi j'ai dit attention, avec ballon en tout cas, il est en surchauffe. Il fait pas ça d'habitude au Sporting. Là, les passes, il faisait des passes externes, de mauvais pieds et tout, des transversales. Et donc, les supporters qui le connaissaient pas, qui l'ont taillé d'un coup, l'ont mis comme si c'était qu'ils allaient voir un créateur toute la saison. Et donc, maintenant de nouveau, il le critique. Voilà, Ugarte est sur le banc pour le moment, c'est logique dans ce que veut faire Enrique, mais il sera important.
Vitier est meilleur que lui. Je suis désolé, Vitier à relance est meilleur que lui.
Ruiz aussi, quand il a joué 6.
Il y a encore des choses qu'il doit apprendre. Je rappelle que Ugarte, il a 21 ans. Mmh. C'est sa première saison. Là où Vitinha est arrivé la saison dernière, il a pu digérer toutes les égos qu'il y avait la saison dernière. Et là, il est dans un effectif où, un, il a la confiance du coach, et deux, il est calme. Mmh. Tu vois pas? Le coach, franchement, il le met très bien. Ugarte, il a encore des choses à apprendre. Et comme le disait Baston, parce qu'on en a parlé au début lorsqu'il arrive, c'est pas le type de joueur Lucien Riquet et compagnie.
Oui.
Tu vois, c'est pas du tout.
C'est un joueur besogneux.
Et donc, c'est même étonnant qu'il ait joué autant sous Lucien Riquet. Donc, il a encore des choses à apprendre, c'est logique.
Il y a Eve qui a posé la question, est-ce que Skriniar restera ou pas?
Oui. Oui, je pense. Mais après, c'est pareil, c'est comme Ugarte, c'est difficilement Lucho compatible. Donc oui, il va rester. Maintenant, je pense que quand il reviendra de blessure, Danilo sera déjà installé, Hernandez sera réaxé. Donc je pense qu'il restera, mais ce sera une solution de remplacement. Et puis juste pour finir sur Ugarte, on a vu Vitinha l'année dernière arriver et être en sur-régime. On a trouvé ça exceptionnel. On parlait de Verratinha, machin. Et au final, il était en sur-régime et il a fini cramé. Ben, c'est pareil pour Ugarte. Il doit digérer sa première saison. Et puis, il sera meilleur.
Il ne faut pas tomber dans le travers qu'ont en général les commentateurs mainstream du foot. Ils ont toujours l'impression que ce soit sur un match ou sur une saison, que les choses sont linéaires. C'est faux. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Donc le mec, effectivement, il était stratosphérique au début. Il l'a payé. Si le coach est intelligent, il le met un peu au repos, il le remet en confiance. Et je pense qu'il donnera encore satisfaction à des moments clés de la saison.
Mais les gars, rappelez-vous, Ugarte, il a joué pratiquement tous les matchs. Ouais. Il a joué au début de saison, il jouait pratiquement tous les matchs. Moi, je me rappelle d'un moment.
C'est Skriniar qui revient sur Ugarte, escroc.
Tu vois, non, mais vous rappelez d'un moment où le gars, même Skriniar, hein, d'ailleurs, c'est la même chose. Ils ont joué tous les matchs. Ugarte, je me rappelle d'un moment où il était en sélection. Il revient. Il a eu un jour et demi de repos et il joue à la 60e minute. Les gars, c'est pour vous dire, avec le coach, tu fais confiance. Et par rapport à Skriniar, moi, j'ai une interrogation, parce qu'on en parlait tout à l'heure en space sur Twitter. Il y a une vraie interrogation pour savoir si le coach va le conserver. Parce qu'il rentre, pour moi, qui en termes de jeu, que Luis Enrique va vouloir le conserver. Parce qu'en termes de jeu, Skriniar ne rentre pas dans ses critères. Mais après, je me dis, si le coach le fait autant jouer, sachant qu'il a quand même d'autres solutions, voilà. Je pense qu'il est là. Et puis d'ailleurs, je trouve qu'on en fait beaucoup avec lui. Il n'est pas aussi catastrophique qu'on veut nous vendre.
Vas-y, Jean-Marc.
Non, je voulais juste dire, ça fait plusieurs fois que les uns et les autres, on parle du coach, ce qu'il veut, il est compatible ou pas compatible. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Il joue son jeu, je suis désolé, je ne me suis jamais autant fait chier devant une équipe de foot que devant l'équipe La Roja 2022 à la Coupe du Monde. Si on lui laisse les clés pour jouer comme ça, moi, je vais supporter Lens, peut-être, j'en sais rien, mais je déteste ce foot-là, je trouve ça insupportable.
Ça reste une équipe différente.
Oui, mais oui.
Dans l'essence, l'équipe de l'Espagne de Luis Enrique ressemble à ce qu'il y avait le PSG lors du PSG Lorient.
Oui, c'est ça.
Les préceptes de jeu
sont les mêmes.
Il a la chance d'avoir des côtés qui sont très forts et d'avoir un numéro 9 efficient, chose qu'il n'avait pas avec la Roja.
C'est vrai.
Par contre, je suis d'accord avec Jean-Marc. Moi, si c'est pour me faire le jeu qu'il a fait en 2022,
beaucoup avaient mis critiques par Lorient,
justement, il n'y avait pas Dembélé et Mbappé, justement, pour avoir cette transition, etc. C'est pour ça qu'on a vu sur ce match.
Il y avait Ramos qui avait débuté ce match.
Je pense qu'il est parti parce que ce n'est pas dans sa culture de cette transition. Quand tu as des joueurs comme Dembélé, Mbappé. Tu joues en transition le plus vite possible. Pourtant, les mecs, ils jouent pas en transition.
Quand tu joues à un jeu de possession, forcément, tu es sur la moitié de terrain adverse. Oui. Ce qui fait que les phases de possession et de contre-attaque, tu les as moins. Maintenant, là où je suis d'accord avec Jean-Marc, quand on a des phases de transition rapide, je trouve qu'elles sont très mal gérées. Hier, on en a une, par exemple, et ça, j'en avais parlé, parce que des fois, je trouve que Kylian lance des appels pour avoir le ballon dans les pieds. Mais aussi, des fois, c'est pas forcément sa faute. Moi, je me rappelle d'une occasion où Kylian essaie de prendre le côté, il prend de la profondeur. Que fait Barcola? Il lui envoie dans les pieds. Non, envoie dans la profondeur, Kylian prend la profondeur, et là, ça fait une phase de transition qui va être très dangereuse. Donc, c'est aussi aux joueurs aussi qui sont sur le terrain de savoir gérer les phases de transition. Moi, j'ai vu des occasions où des fois, on lance des transitions à 4-5 face à un adversaire qui sont 2-3, et on perd le ballon.
C'est vrai.
On s'égare dans les questions.
On va juste remercier Val, encore une fois, qui a fait un don de 2 euros et qui demande à nos chers auditeurs de n'hésiter pas à liker. Hein, c'est important. On est 256 en live et seulement 71 pouces bleus si on peut atteindre au moins, on va dire, 125 avant 18h. Ce serait parfait. On va enchaîner sur le mercato. On a parlé de Skriniar, qui sera out au moins jusqu'à la fin de saison, selon Fabrice Hawkins. Est-ce que avec l'absence de Skriniar, la priorité doit être de recruter un défenseur central?
Non, un latéral gauche pourrait axer Hernandez, pour moi. Ce serait plus... Après, en plus, quel défenseur central tu pourrais prendre? Il y a Beraldo qui est arrivé, mine de rien. T'as Marquinhos, t'as Danilo, t'as Beraldo, t'as Mukiele qui peut dépanner. J'en ai peut-être oublié un. Alors qu'à gauche, t'as personne. On sait que Lucas Hernandez est venu pour jouer en défense centrale. On sait qu'il est meilleur en défense centrale. Donc si tu dois aller chercher un profil, pour moi, c'est pas un central, c'est plus un latéral gauche.
Idem, un latéral gauche en attendant le retour de Nuno, on l'espère en fin février, courant mars. Mais en attendant, il faut un arrière gauche pour pouvoir remettre Lucas dans l'axe.
Si on prend la piste de latéral gauche, vous iriez sur qui? Il y a la rumeur Valentin Barco. On peut aussi avoir, comme l'avait dit Tonton lors d'un dernier live, Quentin Merlin, j'ai un espoir international. Vous iriez sur qui?
Bah, de toute façon, les deux, c'est intéressant. C'est des prospects qui ont un profil assez moderne, assez offensif. Et je pense que c'est ce qui manque, parce que Lucas, lui, il a un profil plus défensif. Si on peut avoir un pendant sur l'aile gauche en attendant le retour de Nuno, c'est bien. Il ne faut pas prendre un titulaire qu'on va surpayer. Donc, un prospect, c'est très bien pour moi.
Oui, par contre, je serais plus aller chercher quelqu'un qui est déjà en Europe, chercher un Valentin Barco. Il joue en Amérique latine, il va devoir s'adapter, etc. Un petit peu comme Beraldo. Donc je pense que si tu en as besoin pour tout de suite, vaut mieux aller prospecter en première ligne, en Mundes ou en Ligue 1. Et en Ligue 1, en plus, il y en a quand même pas mal. Il y a Adrien Truffert, Il y a Melvin Barr, je crois, qui joue à gauche, Melvin Barr.
Il joue à gauche, à l'OGC Nice.
Il y a Quentin Merlin. Donc, mine de rien, tu as quand même quelques bons prospects plutôt que d'aller chercher en Argentine. Là, tu as des mecs qui pourraient être bons tout de suite en Ligue 1.
Barry, toi, tu allais sur quelle piste? Un défenseur central ou un latéral gauche en priorité?
Moi, j'irais sur un milieu de terrain en priorité. J'irais sur un milieu de terrain. Déjà, je n'irais pas sur un défenseur central. Ça, c'est un truc qu'il faut arrêter. Vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut arrêter. Dès qu'il y a un joueur qui est blessé, c'est non, mais il faut directement aller chercher. C'est bon. Il faut arrêter là. Regardez, vous allez à Madrid. Hein. Madrid qui a gagné avec des champions, il n'y a même pas deux ans. Hein. Ils ont des blessures en défense. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, Tchouaméni va peut-être jouer en défense centrale. À une époque, Pogba a joué en défense centrale lorsqu'il était sous Mourinho à United. Donc, à un moment, les gars, il va falloir arrêter de recruter pour recruter. On l'a fait, ça. On l'a fait de nombreuses années. Rappelez-vous, on perd Rabiot. On va chercher le remplaçant de Rabiot. Rappelez-vous du remplaçant qu'on va chercher, Herrera. On va chercher Herrera. Herrera ne donne pas satisfaction, même si je trouve qu'on était un peu dur avec lui, mais il ne donne pas satisfaction. Qu'est-ce qu'on fait? Le joueur est encore au Paris Saint-Germain. On va chercher le remplaçant du mec qui est encore au Paris Saint-Germain. Le remplaçant ne donne pas satisfaction. On va chercher un joueur qui est le remplaçant du remplaçant, mais lui aussi ne donne pas satisfaction. Tu te retrouves avec trois joueurs qui sont qui ne sont pas bons, et donc qui sont tous là pour être là, tu vois, avec des gros salaires. Voilà, donc moi je pense qu'à gauche on a de quoi faire, même si on a très peu de joueurs. On en a un, je sais pas s'il a envie ou enfin je sais que c'est un Twitcher actuellement, donc Kurzawa, je sais pas qui va jouer Kurzawa. mais je pense que à un moment quand on a un blessé, il faut pas se précipiter directement à les recruter pour recruter, si ce n'est Lenny Yoro. Tu me ramènes Lenny Yoro,
ça c'est la question que je réservais juste après.
On ferme la boutique, hop, tout est carré, c'est bon, on a notre milieu, on a notre défenseur d'abord.
Bah, on va enchaîner tout de suite sur Lenny Yoro. Il y a trois options. Soit avec la blessure de Skriniar, vous l'achetez dès cet hiver. Soit vous l'achetez dès cet hiver et vous le laissez en prêt. Soit vous en faites une priorité pour le mercato estival.
Moi, je le prends cet hiver parce qu'il faut faire vite. Hein. Le Real Madrid est dessus, je crois. Et puis en Première Ligue, il y a du monde aussi. Donc, je le prends directement cet hiver. Par contre, je laisse continuer avec le LOSC la fin de saison. Comme on l'a dit, en défense centrale, il n'y a pas forcément besoin, même si Skriniar s'est blessé. Par contre, oui, milieu de terrain, je suis d'accord. Mais on sait que Lucas Hernandez est fragile côté gauche. Si on se retrouve face à la Sociedad avec Kurzawa ou Naga,
ce sera Mukiele.
Oui, ou Mukiele.
Je vais dire un truc. Je pense qu'avec les qualités balle au pied qu'a Beraldo, je ne le connais pas, je ne vais pas mentir. Je pense que vu comment on connaît le coach, il peut à la rigueur se dire que Beraldo va jouer là-bas dépanné. On l'a déjà vu, des défenseurs centrales qui jouent sur les axes. Hein. On l'a avec Marquinhos,
Jules Koundé, Pavard.
Avec Jules Koundé, Chadaï, etc. Je ne suis pas fan de cette idée-là.
Il est plus lent.
Oui, et même
je suis pas du tout fan de cette idée-là, tu vois. Mais je pense qu'à un moment, il ne faut pas se précipiter pour se préciser. Nuno Mendes va revenir. Pourquoi aller recruter un joueur dont on ne connaît pas? Tu parlais par exemple du joueur d'Amérique latine. S'il vient, peut-être qu'il est bon, je ne le connais pas, je ne vais pas mentir. Mais pourquoi aller recruter alors que tu as un joueur qui va revenir juste pour se précipiter et après refaire ce qu'on faisait les années précédentes?
Oui, mais après
on a besoin d'un remplaçant en arrière-gauche. De toute façon, Lucas, ce n'est pas un arrière-gauche.
Voilà. On a besoin d'un milieu et d'un latéral-gauche. On a besoin d'un milieu et d'un latéral-gauche.
Pour moi, surtout, c'est au milieu de terrain. Ouais. Je pense que Jean-Marc est d'accord avec moi.
Je pense qu'au milieu, on a, pour rejoindre, parce qu'on va finir par être d'accord tout le temps, mais pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure sur les histoires de transition, il y a aussi une des raisons, à part l'idéologie du coach, parce que c'est de l'idéologie, une autre raison, c'est qu'il n'y a pas une qualité de passe extraordinaire au milieu de terrain. Il n'y a pas un joueur, c'est vrai qu'Ugarte à des moments on se disait waouh, donc c'est pour te dire, il n'y a pas un joueur qui est capable de faire jouer Kiki dans l'espace et
mais
de jouer
quelle piste tu préconiserais sur ce mercato hiver
là,
sachant
que
c'est très serré
avec vous là, puisque je suis là c'est la première fois. Moi j'ai le temps de voir les matchs du PSG, mais j'ai peu de temps pour voir d'autres matchs. Je regarde un peu la Première Ligue, mais je regarde peu de matchs de Ligue 1. Donc, c'est pas à moi qu'il faut poser la question pour savoir quel joueur... Mais tu vois, par exemple, comment il s'appelle? Ça va peut-être vous faire hurler, mais comment il s'appelle? Le Cacré, tu vois, c'est du
Maxence
genre de
Cacré.
Joueur. Maxence Cacré, c'est... Non.
Un peu en perte de vitesse à l'Olympique Lyonnais.
Ouais, après, peut-être justement,
j'aime bien le joueur aussi. Joueur,
je te dis pas qu'il va être titulaire à chaque fois, mais on a besoin d'un joueur qui mette un peu de concurrence. Parce que Vitinha, moi, globalement, je l'aime bien, mais il n'a pas une qualité de passe extraordinaire et il a tendance à faire 2-3 touches de trop à chaque fois. On a besoin d'un gars qui a une bonne qualité de passe et qui est capable de faire une passe après une touche de balle.
D'ailleurs, on a plus ou moins réglé le problème parce que l'une des qualités premières de Beraldo qui est arrivée, c'est la passe. Moi, j'ai vu les stats, je ne connais pas le joueur, je ne vais pas mentir. Et ce n'est pas en 20 minutes où je vais faire. Au bout d'un moment, d'ailleurs, pendant le match, je ne sais pas si vous avez vu, il envoie une passe laser qui est contrée.
Oui, il a essayé de tenter.
Qui part, etc. Donc déjà, défensivement, je pense qu'on a réglé ce problème-là. On peut trouver des attaquants défensivement. Maintenant, au milieu de terrain, je suis d'accord avec Jean-Marc. Après, bon, moi, je suis plus avec... comment s'appellent les joueurs de Tottenham, là, au jeu?
Højbjerg. Jeremy
Højbjerg. Højbjerg, j'aime bien. Je crois que j'avais lu une info, sur le Bayern, là, apparemment, où...
Goretzka.
Goretzka n'est plus en odeur de santé. Bon, après, lui, c'est pas vraiment... il n'a pas vraiment une qualité de passe...
c'est plus un box-to-box, box, lui.
Mais je le trouve assez intéressant.
Non, c'est plus Kimmich,
il faudrait... voilà, bon. Mais en fait, il faut déjà, pour moi, il nous manque deux profils au milieu de terrain. Il nous manque déjà un profil qui est capable de lire les trajectoires sans ballon, pas avec ballon, sans ballon, des trajectoires des balles adverses, défensivement, offensivement, qui puisse se projeter et qui ait une qualité de passe. C'est vrai que c'est compliqué, donc je pense que ça, c'est plutôt deux joueurs. Maintenant, un joueur avec des qualités de passe supérieures. Bon, il y a Enzo Fernandez qui est à Chelsea. Qui
est bloqué.
Il est bloqué. Il y a Bruno Guimarães.
Vous voulez qu'on écoute 15 millions, le Enzo.
Bruno Guimarães, qui aura peut-être envie. En plus, Bruno Guimarães, je dirais oui tous les jours.
Il a une clause.
Il a vraiment toutes les qualités qui
manquent. Zubimendi.
Zubimendi, je suis un peu moins fan.
Il va partir à Arsenal.
Mais de toute façon, c'est des joueurs qu'on peut pas.
Voilà,
cet hiver.
C'est la même chose qu'en décès quand tu dis faut pas se précipiter. Mais, au milieu, c'est pareil. Si c'est pour encore surpayer un joueur moyen pour 40 millions, qui t'empêchera cet été de recruter.
Ah, moi, je parle pas pour cet hiver. Moi, cet hiver, les gars, je vais vous dire. Moi, cet hiver, c'est un mercato d'opportunité.
Ah, bah cet été, on est tous d'accord que le milieu sera le gros chantier.
Tu vois, je vois des gens, ils disent ouais, pendant un moment, il y avait l'info Calvin Phillips. Là, je voyais des tweets. Ouais, mais regardez les bidons. Eh, les gars,
ah, il est pas si bidon que ça, quand même.
Non, mais il y en a qui disent qu'il était bidon, etc. Mais les gars, en hiver, c'est l'opportunité. Ouais. Le gars se présente, il a des capacités, on le prend en presse, bim, s'il donne cette faction, c'est bien. Sinon,
va-t'en. Projeter un petit peu sur le mercato estival et aller sur le volet des gardiens de but, hier, Donnarumma a quand même été très décisif, très bon sur sa ligne. Est-ce que ça peut entériner le fait de voir Donnarumma quitter le Paris Saint-Germain?
De toute façon, il n'y a personne sur le marché, on va être honnête. J'ai un ami qui n'aime pas du tout Donnarumma. Moi, je l'aime plutôt et je trouve qu'il fait sa meilleure saison pour le moment depuis qu'il est au PSG. Il a eu ses 2-3 matchs compliqués, période Monaco, Newcastle, mais sinon, il fait une très, très bonne saison. Et donc, mon ami qui n'aime pas Donnarumma, je lui ai dit, on va regarder. On va regarder la liste des gardiens qui sont disponibles, qui ne sont pas bloqués dans les grands clubs. Il a fait la liste, il a fait effectivement, il n'y a personne.
Bon, donc, il y a Maignan qui est en fin de contrat en 2024-2025.
Bon, je pense, et puis il est tout le temps
blessé.
Donc c'est, bon.
Est-ce que... c'est pas sûr qu'il prolonge, puisqu'il peut aussi décider de se trouver un nouveau challenge.
Ouais. Après,
aussi,
si oui, tous les jours à Maignan, moi je dis oui, tous les jours.
Après, si Maignan peut le faire, oui, évidemment. Mais bon, on va dire qu'il n'y a quasiment pas de possibilité. Voilà. Maignan, c'est même pas sûr que ça en soit une, parce que peut-être qu'il prolongera. Donc pour moi, c'est pas le
mais il sera jugé en Ligue des Champions surtout parce qu'en Ligue 1 on sait de toute façon on connaît les qualités de Donnarumma, on sait qu'il est exceptionnel. Maintenant on va avoir besoin de lui en Ligue des Champions, qu'il soit sûr à ce moment-là, et c'est là qu'on va le juger. Et s'il est pas sûr, effectivement c'est vrai qu'il y a peu de monde sur la liste, mais il y en a un qui a fait ses preuves sur les 3 matchs qu'il a pu jouer, c'est Arnaud Tenas, et lui a le jeu au pied qu'on voudrait que Donnarumma ait. Donc à partir du moment où Gigio n'est pas le gardien qu'on attend dans les phases finales de Ligue des Champions, sachant qu'il n'y a personne sur le marché, si tu ne peux pas faire Maignan, il y a toujours Arnaud Tenas que tu peux faire démarrer la saison prochaine.
Je voudrais dire un truc là-dessus, vous allez dire que c'est vrai que je suis un peu obsédé contre Luis Enrique, mais on a compris, ça fait quoi, 3 saisons qu'il est là? On sait qu'il a un jeu au pied déficient. Change ta philosophie. Pourquoi est-ce que il repart forcément de ses 6 mètres en proprement, et puis il n'y a pas qu'au PSG. Ça me rend fou le nombre de buts qui sont pris par des équipes qui systématiquement cherchent à relancer court, etc. De temps en temps, joue long de manière peut-être un peu imprécise, mais au moins tu prends pas de risque. Je dis pas tout le temps, de temps en temps, mais l'autre, il est tellement. Il est tellement idéologue, tellement dogmatique, qu'il ne fera jamais ça.
C'est vrai.
Et qu'il préférera prendre le petit, là, Tebas, qui est méritant. Enfin, ça va, quoi.
Moi, je vais même aller
dans la Ligue des Champions,
loin.
Ça va pas.
Je vais même aller encore plus loin. Moi, je suis désolé. Les erreurs de Donnarumma à la relance, pour moi, ne viennent pas du fait de Donnarumma.
Je
le répète
d'accord.
À chaque fois. Pour moi, je suis désolé.
Mais on le met dans des conditions dégueulasses.
Les gars, à la relance, quel est le premier relais du gardien de but?
Défenseur.
C'est le défenseur central. Ou le numéro 6. Ça a toujours été comme ça. Les schémas de passe ont toujours été les mêmes. Regardez bien, à la relance du ballon, lorsqu'il donne normal le ballon, Marquinhos va écarter. Donc Marquinhos est une possibilité. Sauf que quand Marquinhos va avoir le ballon, ou Danilo Skriniar quand ils sont sur le terrain, à un moment, il va bien falloir qu'il passe le ballon. Les latéraux, eux, vont être bloqués sur le côté droit, vu que le jeu de l'équipe adverse, le jeu défensif de l'équipe adverse, va être de déporter le ballon vers le côté. C'est à ce moment-là où tu dois avoir un numéro 6 qui est censé se démarquer pour pouvoir apporter des solutions. Et dans ces moments-là, regardez bien, sauf lorsque Vitinha le fait, ou lorsque même Kanginli l'a fait, Ugarte l'a pas fait.
Ougarté l'a pas fait. Et regardez bien. Je vous invite à revoir les actions où on a des situations dangereuses où le ballon était perdu. Regardez bien les déplacements au milieu de terrain. Regardez bien le 6 qui est censé venir apporter une solution à ces joueurs-là. Et vous allez vous rendre compte que soit le 6 a été pris par un joueur adverse, et là c'est très bien fait pour l'équipe adverse, ou soit Ougarté ne s'est pas déplacé.
Non, mais il y a deux choses aussi. Il y a la qualité technique du 6 de Ougarté déjà. Il y a la qualité aussi de relance de Skriniar qui balle au pied, c'est compliqué. Ouais. Et on l'a vu sur le but qu'on prend face à, je crois que c'est Dortmund. Combien de temps met Skriniar avant de donner le ballon, et au final on se retrouve bloqué avec Marquinhos Hakimi sur le côté qui perd le ballon et derrière on prend but.
Non, c'est vrai, ça va être.
Si Skriniar ne donne pas le ballon, c'est qu'à un moment il n'y a pas de solution devant. Tu vois,
on va essayer de passer maintenant à la partie de chat. On a encore Merci Yev qui nous donne 5 euros, qui fait un don de 5 euros.
Merci.
Et qui, par rapport à la partie de chat, ça enchaîne très bien avec lui. J'ai de la peine pour Ramos. Luis Enrique l'ignore. Il ne le fait pas jouer. Vous en pensez quoi par rapport à Gonçalo Ramos qui est totalement à la cave?
Je vais prendre la parole parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est même plus que pas le faire jouer, c'est limite l'humilier. Quand il le fait rentrer à la 92e contre Metz pour lui donner 30 secondes,
et en plus,
il a une action avec Mbappé qui rate, il arrive à se la créer en une minute, effectivement. Donc il sort de son meilleur match contre Monaco titulaire. On se dit, il va peut-être enchaîner. Derrière, il n'est pas titularisé, il disparaît. Bah, après Marseille, il avait été mis sur le banc aussi le match d'après, effectivement. Mais là, il a carrément disparu de la circulation, c'est-à-dire qu'il a joué 6 minutes en 8 matchs. Tu te dis contre Metz avant la trêve, il va quand même peut-être jouer titulaire. Non. Hier, il n'est même pas à l'échauffement. Je viens me demander s'il va jouer contre la Division 6 Revel dimanche en Coupe de France. Et là, s'il ne joue pas, je crois que le message sera clair. On peut déjà le prêter ou je ne sais pas. Mais c'est un peu bizarre. Après, qu'il ne soit pas titulaire, moi aussi, je suis plus pour voir Mbappé 9, Barcola à gauche, j'aime pas. Mais le sortir à ce point-là de la rotation et lui donner « Allez, je te donne 30 secondes contre Metz », je trouve ça psychologiquement, c'est dur pour Ramos.
Il y a Adrien qui a dit par rapport à Donnarumma, « Aujourd'hui, c'est compliqué, mais le jour où cette difficulté la sera surmontée, elle deviendra une arme fatale pour créer une occasion en 3-4 passes. »
Par contre, j'attends que Donnarumma aille en Turquie, là, parce que c'est dur pour lui. Hein.
À vue du stade, ça fait mal.
Alors,
je te jure, vu du stage de voyage, c'est « Ah, miskin !» C'est un peu mouvant, la calme.
Il faut surtout espérer que ce jour arrive. Il faut espérer que ce joueur arrive, et s'il n'arrive pas à un moment donné, comme je dis souvent, Donnarumma est jeune, il a une valeur marchande, et s'il ne répond pas présent quand il faut...
Les deux buts partent de toujours... lui, hein. D'ailleurs, ça passe, ça part.
Mais de toute façon, on sait que c'est une arme fatale aujourd'hui.
C'est qu'il est extraordinaire sur sa ligne.
Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde sur sa ligne.
Je suis désolé, c'est un vieux con, mais avant tout, c'est ça qu'on demande à un gardien. C'est soi-disant le foot moderne. Depuis quand le foot moderne, il est meilleur que le... Je ne comprends pas.
Il se met à sortir.
Et dans les airs, d'ailleurs.
Il devient de plus en plus rassurant.
Merci, parce que c'était un de ses points faibles aussi à Milan,
sur la défense.
Dans les airs, alors qu'il est très grand. Et pour le coup, je trouve qu'il est de plus en plus rassurant dans les airs.
Même sur la défense. Après, moi, je suis un fervent supporter de ce qui se passe en tribune. Mais même le rapport qu'il a avec les supporters, tu vois, je trouve que c'est quelqu'un qui a envie de bien faire.
Il est très attaché.
Après, moi, attention, c'est pas parce que je l'ai défendu il y a quelques instants que je suis en train de dire que oui, il a un jeu au pied excellent. Non, il a un jeu au pied.
Il a des défauts, évidemment.
Tu vois, il a des défauts, comme tous les joueurs du monde. Mais moi, je suis encore une fois d'accord avec Jean-Marc. Moi, les gars, les histoires de gardien de but qui est naturellement fort au pied, dribble, passement de jambe, je m'en fous de ça, moi. arrête des buts. Normalement, quand t'étais pas bon, balle au pied, bah t'avais des défenseurs qui faisaient les relances. T'as même un truc qui est né il y a quelques années, les gardiens qui n'arrivent pas à relancer balle au pied, ce qui se passe, c'est le défenseur qui fait 6 mètres. Tu vois, donc ça n'a jamais dérangé personne. Maintenant, le truc, c'est que c'est vrai que dans le jeu de Luis Enrique, on attend beaucoup. Donc c'est à lui de travailler.
Ouais.
Voilà.
Il y a Vincent A qui dit, les gars, on a l'air surpris de voir Ramos avec peu de temps de jeu. On a 7 attaquants pour 3 places.
On a 3 places déjà. On a 3 places. En plus de ça, Luis Enrique a joué avec 4 attaquants par moment. En Ligue 1, tu peux aussi jouer avec 4 attaquants. Dans les dernières minutes d'un match, par exemple, et les 20-30 dernières minutes, quand le jeu est complètement différent du début de match ou du début de seconde mi-temps, tu peux jouer avec 4 attaquants. Tu as des matchs de coupe où tu peux faire rentrer Ramos. Hier soir, par exemple, tu peux faire rentrer Ramos. Tu peux passer avec Dembélé à gauche, Ramos en pointe. Non, il ne veut pas le faire jouer. À un moment donné, il était malade. Sa maladie, elle a duré combien de temps ? 3 semaines ? Non, il doit jouer un peu plus. Colomoigny, on le voit jouer un peu plus. Ramos doit jouer un peu plus, je suis désolé.
Non, moi je trouve ça faux. Colomoigny, il a plus joué en Ligue des Champions, c'est vrai. Il a joué tous les matchs de Ligue des Champions. Mais Ramos a joué, les gars.
Ramos a joué, mais continue
à rentrer 25 minutes par match alors qu'il n'a pas été...
Regardez en termes de temps de jeu.
Colomoigny a plus, alors Ramos est arrivé 5 journées avant lui.
D'habitude, je ne regarde pas les stats, mais par rapport à ça, j'ai regardé les stats. Je suis désolé. Colomoigny a plus joué.
On parle depuis Monaco.
Colomoigny a plus joué, c'est une réalité. Ramos a eu son temps de jeu. Je suis désolé, Ramos, n'a pas donné plus de... Attends, c'est faux. Ramos n'a pas donné plus satisfaction que Colomani, les gars. Vous n'allez pas me la faire à moi. Les deux n'ont pas donné satisfaction.
Tout le monde a donné plus satisfaction que Colo cette année.
Ouais, non, c'est faux. C'est
mais c'est le pire joueur du PSG. Même Skriniar, il a donné plus de satisfaction que Colo.
C'est faux. Les deux n'ont pas donné plus de satisfaction. Je suis désolé.
Ouais, mais il y en a un qui continue à jouer alors que l'autre est tricard dans ce cas-là.
Ok, merci. D'accord. Je vais te répondre. Les deux n'ont pas donné satisfaction. Mmh. Donc vous pouvez essayer de vous bercer d'illusions et essayer de nous bluffer. Moi, c'est pas un bluff.
Mais ça, je suis d'accord que les deux n'ont pas donné satisfaction. Je suis d'accord sur ça, sauf qu'il y en a un qui
n'ont pas donné satisfaction. Les deux n'ont pas donné satisfaction. Et je suis désolé, si vous me dites que Ramos a donné plus satisfaction que Colomani, alors dites-moi pourquoi Colomani joue plus que lui et pourquoi Colomani a plus marqué que lui. Arrêtez, les gars.
Pourquoi ? Déjà, non, ils ont les mêmes stats en minutes par 90 minutes de but marqué, 3-5, mais Colomani a marqué plus. Juste
pourquoi ? Lorsque Colomani était sur le terrain, il a plus marqué que lorsque Ramos était sur le terrain.
Non, c'est faux. Déjà,
les gars, ils jouent contre Reims.
Colo, sur ses 5 buts, il y en a 3 en sortie de banc. Déjà, que Colomani est titulaire, il marque moins que quand Ramos est titulaire.
Comment tu peux dire ?
Deuxièmement, pourquoi ? Pourquoi Ramos, quand les deux matchs où il a été vraiment bon, c'est-à-dire contre Marseille et Monaco, il est écarté derrière, il n'a jamais de continuité. Colo, quand il est bon, il a continué à être titulaire. Il a eu la continuité. Ramos n'a jamais eu de titularisation de suite, à part les premières journées de Ligue 1 quand il n'y avait pas Mbappé, etc. Mmh. Il n'a jamais eu de continuité. Luis Enrique ne lui a jamais donné la confiance qu'il a donnée à Colo. C'est un fait. Il a beaucoup plus donné confiance à Colo depuis le début de saison qu'à Ramos.
Ouais, puis Ramos,
si il a plus donné satisfaction, c'est pourquoi
Ramos, il a pu jouer en pointe, à gauche, à droite.
Colo à Ramos,
voilà, ceux qui préfèrent Colo à Ramos. Donc s'il préfère Colo à Ramos, c'est que Ramos n'a
pas arrêté de cracher sur lui, mais il connaît quand même le foot.
Bah oui, c'est même pas ça. C'est même pas ça. À un moment, je suis désolé.
Mais ça n'empêche pas
les débats de supporters, etc. Déjà, quand vous me dites qu'il n'a pas donné de continuité à Ramos, c'est pas vrai.
Bah, il a eu la continuité. Jamais de titularisation.
Je t'ai laissé parler, j'ai pas parlé. Donc, déjà, c'est faux. Il a joué pratiquement autant de matchs que Colomani. Colomani a pu jouer avec lui. Maintenant, quand on regarde les matchs où Colomani a joué, les gars, on a plus marqué avec Colomani sur le terrain qu'avec Ramos.
Non.
C'est une réalité. Bah, tu peux dire ce que tu veux. Les gars, on joue contre Reims. On joue contre Reims. Il joue 45 minutes. Il sort. C'est bien un signe. À un moment, les gars, arrêtez de faire semblant de vouloir nous faire croire que le coach est en tort ou je sais pas
argument
quoi.
De plus pour
moi,
je veux bien
que vous ayez des avis, que vous ayez des préférences pour un joueur ou tel. Moi, Gonçalo Ramos, je le voulais, c'était bien. C'est un joueur dont j'ai fait une grosse propagande. Pareil pour Colomani. Je veux bien qu'il y ait des préférences, etc. Maintenant, les gars, faut rester objectif. D'accord. Si le coach fait plus jouer un joueur qu'un autre, c'est que l'autre joueur est meilleur. Et c'est que selon le coach, l'autre joueur est meilleur que l'autre.
Non. Ou peut-être... c'est que le coach le préfère, pas qu'il est meilleur. Ramos, t'as donné un bon exemple. Contre Reims, il le sanctionne. C'est le seul joueur qui sanctionne en le sortant à la 45e, alors que Colo peut être nul 60 minutes.
Que le coach préfère l'humanité de Colo.
Il préfère le jeu de Colo Mani à celui de Ramos.
Il préfère le jeu d'un Colo Mani que d'un Gonçalo Ramos. Moi, je suis désolé. Lorsque Colo Mani est sur le terrain, Gonçalo Ramos, que j'aime beaucoup, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais lorsque Colo Mani est sur le terrain, qui n'a pas donné satisfaction, les deux n'ont pas donné satisfaction, il y a plus d'espace qui sont libérés pour certains joueurs.
Ah bon ? Il est temps de passer. Non, attends, malheureusement. Malheureusement, les gars, il va être temps de passer au bilan.
Le coach en a parlé. Le coach en a parlé. Il a parlé de ce qu'il attendait d'un numéro 9. Et je suis désolé. Donc, ce que le coach attend d'un numéro 9, c'est-à-dire de la libération d'espace pour certains joueurs que je ne citerai pas pour ne pas dire qu'il y a un Mbappé.
Bah, les gars,
Gonçalo Ramos est meilleur que Colomani est meilleur que Ramos.
Il y a quelqu'un dans le chat qui me spam, Ayukiji, qui me dit que selon ESPN Brasil, Guimarães est une priorité du Paris Saint-Germain. Bah, donc on verra.
C'est mieux, mais cet été.
C'est quoi cette source de cet hiver?
On verra d'ici cet été.
Ah, ESPN, c'est sérieux, mais bon.
Jean-Marc, on t'a pas assez entendu. Toi, par rapport au bilan de la mi-saison, quelle note tu donnerais à cette première partie de saison?
Quelle note sur 10?
Ouais.
6.
6?
Parce que je trouve... Bon, déjà, le juge de paix, c'est toujours les résultats. Donc voilà, on est premier en Ligue 1 avec 5 points d'avance, si je ne me trompe pas. On s'est qualifié ric-rac, mais on s'est qualifié en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est le minimum syndical qui est atteint. Après, je vais encore une fois dire ce que je pense du coach. Je trouve que c'est un peu trop les joueurs qui doivent s'adapter au coach et pas assez l'inverse. Et ce côté dogmatique me fait un peu peur. J'ai peur que, je disais avant que l'émission commence, quand on voit ce type de coach en ce moment, il y a eu Guardiola, il y a eu un passage à vide de City à l'automne jusqu'au mois de novembre. Là, ils se sont réveillés pendant le Boxing Day. Arsenal, c'est de loin Arteta que je préfère des trois parce que il a joué au PSG quand même. Arteta, moi, je les ai vus jouer là pendant les vacances. C'est pas possible ce style de jeu où ils sont d'une.
Après, Arteta, c'est quand même un gros disciple de Guardiola.
Mais oui, mais je l'ai.
Ah, mais c'est l'école espagnole.
Et Luis Enrique.
Pareil.
c'est, ouais, je sais pas si c'est un disciple ou s'ils ont le même âge, mais c'est la même école. Et cette école-là, à un moment, elle patine. Les mecs, ils pensent plus. Il est obsédé par le contrôle et il pense à contrôler le jeu, contrôler le ballon, plus qu'à marquer des buts. Et d'ailleurs, ils n'en marquent plus. Arsenal, ils n'en marquent plus. Le PSG a une panne d'efficacité qui a failli nous foutre en dehors de la Ligue des Champions. Donc ça, ça m'inquiète. Et j'ai peur que ce gars-là soit vraiment ni pragmatique, ni capable de se remettre en question et qui nous emmène à un moment ou un autre vers des déceptions. Mais j'espère me tromper.
Alors, je remercie nos donateurs. On a eu un don de 7,50€ et de 2,50€. Je passe le salut à Tonton et à Kevzor qui nous regardent. Recoba, par rapport à toi, quelle note tu mettrais et surtout quel jugement tu porterais à ce qu'a apporté Luis Enrique sur les 6 derniers mois comparé, comme je le dis souvent, à ce qu'on a eu avec le prof de sport?
Ah, je mettrais les 7. Je suis quand même très positif, moi, pour ce début de saison-là, parce que oui, factuellement, les résultats sont là. Même si tu finis deuxième en phase de groupe de Ligue des Champions, t'as factuellement la poule la plus dure, parce que c'est le plus fort du groupe 3, du chapeau 3, le plus fort du chapeau 4. Après, le contenu des matchs, etc., on peut en rediscuter, mais en tout cas, factuellement, c'est la poule la plus dure. Il reprend une équipe, c'est un chantier, il y a eu énormément de changements, il a une philosophie de jeu qui est complètement différente et qui est très spéciale. Parce que c'est une philosophie de domination, de possession. Donc, factuellement, tu as le ballon 70-80% du temps. Et donc, c'est plus difficile de l'utiliser plutôt que de rester sans ballon et de défendre. Le plus dur dans le football, c'est d'utiliser le ballon. Donc, forcément, que tu as besoin de beaucoup de choses, de beaucoup de temps, de plusieurs années, d'avoir plein de joueurs spéciaux à certains postes. On l'a vu, Arteta, ça a pris du temps avec Arsenal. S'il l'avait viré les deux premières années, trois premières années même, au final, ils n'auraient pas eu ces saisons-là aujourd'hui. C'est la même chose avec Guardiola. Ça a été la même chose aussi avec Klopp, ça a pris du temps. Donc c'est une philosophie de jeu très spéciale qui demande du temps et des joueurs. Non, c'est pas. Mais un projet de jeu, ça demande du temps. Mm-hmm. Et tu as besoin vraiment des joueurs. Donc là, aujourd'hui, on le sait, on en discute souvent avec le profil de certains joueurs, il ne les a pas. Malgré tout, il y a eu aussi un changement dans la direction du club qui, justement, comme le disait Jean-Marc, il y a une volonté d'avoir le style de jeu de ton entraîneur et pas qu'il s'adapte à ton effectif. Donc il va falloir aussi lui ramener les joueurs qu'il a besoin. Pour l'instant, je trouve que c'est intéressant. Dans le pressing, on est une équipe qui presse le plus, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, qui récupère le plus de ballons aussi, en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et ça, c'est la patte Luis Enrique. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas l'année dernière. Pareil au niveau des occasions. C'est vrai que des fois, on a des trous, on ne marque pas. Mais je trouve que quand on regarde les expected goals, on est largement devant en Ligue 1. On est dans les trois meilleurs avec City et le Real en Ligue des Champions. Si on ne se procurait pas d'occasion, c'est là où on aurait pu être inquiet. Mais pour le coup, c'est tout l'inverse. Donc, je trouve que c'est très encourageant pour les 5-6 premiers mois d'un projet qui vient tout juste de naître.
Barry, j'aimerais revenir avec toi, mais mettre un peu l'accent sur le championnat. Mmh. Est-ce que toi, tu ressens une progression par rapport à ce qu'on a eu sur les précédentes années, notamment sur l'assise qu'on a par rapport aux autres équipes?
Mmh. Déjà, avant de commencer la parole, je regarde un peu les infos là, parce que Nuno Mendes de retour en février, selon Fabrizio Romano. On a le PSG va essayer de se renforcer en défense et au milieu cet hiver pour les Euro, ça sera compliqué. Lille veut le garder cet hiver et le prolonger, selon Fabrice Hawkins. Et ensuite, on a Cher Endur qui pourrait partir en prêt cet hiver. Besiktas et Braga ont déjà pris des renseignements sur le joueur parisien.
Il est fort.
Reste à savoir si Luis Enrique ne souhaite pas le conserver dans son effectif, selon Arthur Perrault.
Et même pour les Euro, Liverpool est dessus, ouais. Mais Lille en demande 90.
Ouais, ils en demandent 90, mais ils veulent le prolonger selon Fabrice Hawkins. Voilà.
Ce qu'il a en fin de contrat en 2025.
Ta question, c'était par rapport à l'amélioration.
Est-ce que pour toi, en championnat, il y a de l'amélioration par rapport à ce qu'on a vu notamment avec Christophe Galtier et Pochettino? Et est-ce qu'on arrive à avoir une vraie assise sur notre championnat de France?
Oui, bonne journée à tous. Non, je rigole. Oui, il y a une amélioration. Après, il y a aussi la qualité des joueurs qui a changé. Je suis désolé, l'année dernière, on a beaucoup tiré sur eux, mais l'année dernière, on avait quand même Neymar et Messi, tu vois, en première partie de saison. Pour moi, ils cristallisaient le jeu, et je ne décolère pas de cette idée-là. Je trouvais que voilà, ça devenait très stéréotypé et qu'ils ne voulaient pas jouer avec d'autres joueurs. Mais je trouve qu'il y a une amélioration, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus dangereux. Alors, certes, dans les stats, on mettait plus de buts la saison dernière en termes de... Les joueurs offensifs mettaient plus de buts. Sauf que maintenant, tu as l'ensemble des joueurs qui marquent. T'as un Kylian Mbappé qui est sur une saison exceptionnelle. T'as un Vitinha qui a 5 buts. T'as un Warren qui a 3 ou 4 buts, je ne sais plus. T'as un Hakimi qui a mis 3 ou 4 buts. T'as un Fabien Ruiz qui a mis 2 buts, il me semble. T'as d'autres...
Même Soler a marqué.
T'as Kang Lee qui a mis 2 buts. Soler qui a marqué. Aujourd'hui, tu vois, on est beaucoup plus tranchant. Moi, je pense qu'avec cette équipe, avec ce mode de fonctionnement-là, tu as plus de chances d'aller loin avec tes objectifs qu'avec un autre mode de fonctionnement où tu sais comment ça va arriver, tu sais qui bloquer.
Jean-Marc.
Oui, je voulais juste vous poser une question. Tu aurais posé la même question il y a un an pile poil. Qu'est-ce que vous auriez mis comme note et qu'est-ce que vous auriez dit ?
3 sur 10. Je l'avais fait l'année dernière à mi-saison, je détestais Galtier, je détestais tout ce qui était, même si tout le monde voyait des performances incroyables, je trouvais le jeu qu'il n'y avait rien en place.
Mais là, tu es passé à 4, c'est ça, là, parce que tu ne nous as pas donné ta note encore. Je pense que c'est une constante chez toi.
J'ai pas donné ma note, du coup, moi, l'année dernière, j'étais à 5,5-6 sur le début de saison, parce que la Ligue des Champions avait pas mal rattrapé les notes. Et je trouve que cette saison, je trouve qu'on a 7,5-7. Parce que voilà, je dis pas que l'effectif est meilleur, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Je trouve que l'effectif de la saison dernière, bah, il y avait des qualités qui étaient indéniables. Par contre, je trouve que t'es beaucoup plus dangereux. Et je préfère ce projet-là que le projet de l'année dernière.
Oui, totalement.
Ah bah, là, on est d'accord. Tu vois, c'est beaucoup plus sain, même au-delà même du football. Les gars, vous avez combien de polémiques cette année ?
Il n'y a plus de polémiques, ils n'ont rien à manger.
Vous avez combien de polémiques ? Le seul truc qui est en train de nous casser la tête, c'est le contrat de Mbappé. Mmh. Sans le contrat de Mbappé, les médias n'ont rien parce qu'il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a rien à gratter.
Il n'y a rien à gratter.
On a retrouvé de l'amour avec les supporters aussi, il y a une cohésion de groupe, il y a le groupe lui-même, il y a avec les supporters, ça n'a rien à voir avec l'année dernière.
Donc appelez-moi si vous voulez des infos, les gars, j'en ai.
Toi, Basto, tu donnerais quelle note et qu'est-ce que tu pourrais penser ? Malgré que les joueurs ne correspondent pas à la philosophie de Luis Enrique, est-ce qu'ils donnent quand même satisfaction ?
Je vais donner 5. Ouf. On va dire 7 pour le résultat, 3 pour le plaisir devant le jeu procuré. Au début, j'avais d'intérêt à regarder, ça me faisait plaisir. Depuis quelques matchs, on va dire 7-8 matchs, je vais dire les mots, je me fais chier. Je me fais chier devant nos matchs. Je trouve ça parfois long, parfois je mets du fond sonore, je mets qu'en fond sonore, je fais autre chose. Donc je me retrouve comme dans les années blancs où j'ai un jeu qui ne me plaît pas, un jeu que je ne comprends pas forcément, un coach qui, en plus, humainement, m'accroche pas non plus. Il y a des coachs genre un Emery, même si dans le jeu j'adorais, l'humain aussi fait que tu peux t'attacher à un coach. J'arrive pas à m'identifier à Enrique. Quand on voit encore comment il répond sur Ugarte en conférence de presse, ouais, c'est des choses qui, moi, ne me plaisent pas. Donc, on lui a demandé pourquoi Ugarte ne jouait pas. Il a dit qu'il a été très bon ce soir, 0 balle perdue, etc. Parce qu'il avait joué 0 minute.
J'avoue quand même, il est bon.
Mais t'es le joueur, tu prends ça.
Non, mais il est bon.
Mais du coup, tu ne peux pas lui poser de questions en soi.
Il gère bien la communication.
Contrairement à un Guardiola que moi je trouve assez pragmatique comme coach dans son dôme, c'est-à-dire que son Munich était très différent de son Barça, et son City est très différent de son Munich, qui est très différent de son Barça, et même son City au cours des ans est très différent. Son Munich était très vertical, par exemple. Et il n'hésite pas à changer les joueurs de système, etc. Enrique, je le trouve très obtus dans la manière d'être et très professoral. J'ai l'impression que quand il fait ses choix comme hier, Asensio à droite, Colo à gauche, c'est pour montrer c'est moi, vous ferez comme je le dis, ce sera comme ça. Et ça me fait un peu peur. Et après, les résultats, pour moi, on plaide pour lui. On est premier, on a un trophée, on est en Ligue des Champions contre la Sociedad. Mais en même temps, notre jeu est tellement fébrile, même si on serait des occasions. Tous nos matchs de Ligue des Champions, on a eu des difficultés à part le premier contre Dortmund en termes de fébrilité. Même hier, on concède énormément d'occasions. On a une fébrilité constante qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas serein quand on joue à la Sociedad. Il y a quelques années, je me serais dit Sociedad, c'est bon, on passe à 90%. Pour moi, là, c'est du 50-50 et je n'arrive pas à être serein. Et on a peu de circuits forts. Il y a Hakimi Dembélé à droite, mais dans le reste, on a peu de circuits de jeu établis. Donc, j'arrive pas encore à lire ce qu'il veut faire. Mais on va lui donner le bénéfice.
On va faire un petit tour de table. Et je vais vous demander à chacun quel secteur vous a le plus satisfait sur cette première partie de saison. Je commence avec toi, Jean-Marc.
C'est dur. Hein.
C'est dur comme question. Je dirais quand même l'attaque.
Ouais.
Parce qu'il y a deux valeurs sûres quand même, Dembélé et Mbappé. Et Mbappé est stratosphérique, donc de toute façon, même s'il était tout seul comme l'année dernière, l'attaque serait quand même le point fort. Et je trouve que Dembélé, malgré ses défauts qu'on connaît tous, c'est-à-dire, c'est incroyable, il passe à tous les coups. Alors après, 80% du temps, il fait le mauvais choix.
Oui.
Ok, certes. Mais qui, là encore, je repose la même question, qui en Europe passe à tous les coups ? Je sais pas. Et donc, les deux, déjà, comment ?
Doku à City.
C'est une galère, d'ailleurs, le City. Qu'est-ce qu'il est fort.
Et donc,
le fameux tout droit.
Donc, je pense que c'est plutôt l'attaque qui est la satisfaction.
Barré.
Bah, moi, je suis d'accord, mais je vais viser la défense.
Okay.
Parce que je trouve quand même que la défense, on y tire souvent dessus, tu vois. On concède beaucoup d'occasions. Mais pour moi, comme je dis souvent, pour éviter de concéder des occasions, ce n'est pas la défense, la ligne de défense même.
Si on concède des occasions, c'est à cause du milieu, je pense.
C'est qu'à un moment, si tu concèdes des occasions, c'est que ton milieu de terrain est friable. Tu vois. Après aussi, quand tu joues dans le jeu de Luis Enrique, forcément, jeu de possession, on le sait, hein, Luis Enrique, lui, c'est un coach, il ne veut pas gagner 5-0, il veut gagner 5-4. Tu vois. Lui, il veut que. Bah voilà, c'est ça, en fait, son jeu est comme ça. Son jeu est basé sur le fait que c'est très difficile de maintenir un clean sheet. Tu vois. Donc moi, je dirais la défense, parce que mine de rien, la défense, bah, ça fait des années qu'ils sont toujours contraints à des exploits. Et puis, il y en a un, je trouve, qui est souvent décrié. Et d'ailleurs, je commence à moins comprendre pourquoi. Parce que autant contre Newcastle, il a fait une erreur, autant derrière, je trouve qu'on lui tire dessus pour rien. Moi, c'est Marquinhos. Bah, ouais. À un moment, les gars, Marquinhos, je veux bien qu'il ait fait son erreur contre Benzema, que la saison d'après, il était un peu mentalement, etc., friable, etc. Mais je suis désolé, les gars, depuis le début de la saison, Marquinhos est un des meilleurs joueurs de cet effectif-là. Mmh. Et il y a encore des gens qui y tirent dessus. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Marquinhos est un des patrons de cette défense. Sur le capitana, je veux très bien qu'on ait ce débat, etc. Ça, je veux très bien, parce que même moi, j'ai ce débat-là tout seul chez moi, comme un fou, dans ma cuisine.
Avec toi-même.
Avec moi-même. Non, je rigole, mais avec des potes à moi, on a souvent ce débat-là. Mais défensivement, des fois, je parle avec même des mecs qui sont défenseurs de métier. Je leur dis ouais, mais tu vois pas, Marquinhos, c'est juste pas peu dur. Ils me disent, mais les gens sont malades. Ils ne se rendent pas compte du travail que Marquinhos fait dans cette défense. Et Lucas Hernandez et Marquinhos, vous ne vous rendez pas compte de l'anticipation qu'ils ont, des relances qu'ils ont, de cette faculté à couvrir derrière Skriniar, de cette faculté à sortir au milieu de terrain, de cette faculté. Même il y en a qui disent qu'il n'a pas de vis. Il n'avait pas de vis il y a quelques années, mais regardez bien, de cette saison, il met des petits coups, notamment contre Dortmund, des petits coups, des petites poussettes. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Marquinhos est autant décrié. Donc, je mettrai la défense.
Très rapidement, juste vous dites le secteur. Réco.
Bah, en fait, juste avant la panne d'Ugarte physique, je mettais le milieu de terrain parce qu'on ne s'y attendait pas. On voulait des recrues, on ne les a pas eues. Et au final, Vitinha était très bon. Ugarte a été très bon. On avait Zaire Emery, évidemment, hyper bon. Donc, je mettais le milieu de terrain. Mais depuis Ugarte, moi, je suis d'accord avec Barry, je mettrai la défense parce qu'on a l'impression qu'on est très fébrile, qu'on prend beaucoup de buts et tout, mais pas du tout. Et surtout, les buts qu'on prend, bah, souvent, c'est nous. On les donne trop facilement. On n'a pas des vagues, d'attaquants et tout. Voilà, exactement. Et sachant qu'on a quand même Skriniar qui est un peu moins bon. Et on a Lucas Hernandez qui joue à gauche et qui normalement devrait être dans l'axe. Donc je trouve que franchement, la défense, elle est satisfaisante. Ouais.
Basto.
Moi, j'ai de dire le banc de touche. Que ce soit les Ruiz, les Soler, les Danilo, les Mouki, les mêmes Tenas quand il a joué. Le banc est, je trouve, plus au niveau que les dernières années.
Mais ça, okay. C'est vrai que les autres années, on n'avait pas de banc.
Donc le coach aussi.
Bon, non, parce que c'est que contre les matchs, il ne les met pas titulaires derrière.
C'est lui qui fait rentrer les joueurs.
Je vais demander au chat quel est pour vous l'homme de cette première partie de saison avant qu'on se retrouve juste après ce jingle. Alors, on a notre première boîte vocale qui vient de David qui a une question pour vous, messieurs.
Je voulais poser une question. Finalement, la meilleure place d'Mbappé, ce ne serait pas sur le banc. Sachant qu'il ne va pas prolonger, est-ce qu'on ne serait pas déjà en train de préparer la saison d'après? Et puis surtout, Luis Enrique, il a besoin d'avoir de l'intensité pour défendre. Et avec Mbappé, on sait qu'on n'aura jamais cette intensité. Autant le mettre sur le banc, ça va responsabiliser les autres attaquants. Et puis surtout, on va défendre à 11, enfin.
Alors, avant que je vous donne la parole,
je refuse de
répondre. Les auditeurs m'ont répondu par rapport à leur homme du match. On a du Hakimi, on a Warren Zaïre Emery, bien entendu, Kylian Mbappé, grâce à son apport en termes de buts, et les gens commencent un petit peu à réagir par rapport à ce qu'a dit David. Je vais commencer avec toi, Basto. La saison dernière, cette saison-là, Kylian Mbappé avait été, on va dire, privé de préparation parce qu'il n'y avait toujours pas d'issue à sa prolongation ou non au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est meilleur buteur de l'effectif, il est titulaire et aussi un des vice-capitaines. Est-ce que David a raison ?
Non, moi ça me fait toujours rire. Ce qu'on a demandé à Mbappé aussi sur le banc en équipe de France, on voit bien que dès qu'il joue pas, l'équipe de France n'y arrive plus. Le PSG l'année dernière, même si Mbappé, oui, ce problème défensif, sans Mbappé, on n'est même pas champion de Ligue 1 parce que c'est lui qui te sort des buts en deuxième partie de saison tout seul. Et cette année, il a plus d'un but par match et il te met des buts dans des moments clés.
Les gars, ouais, 18, les gars.
Que les types du genre de David disent, c'est qu'ils marquent que des pénalties.
Mais les gars,
on a vu son but contre Metz enroulé, son but hier.
Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 est à 8 buts ou 9 buts. Après,
c'est peut-être pour ça que Enrique l'a mis en neuf, c'est qu'effectivement, il a besoin de quelqu'un qui défende plus dans le couloir. Ça, c'est possible. On sait qu'il a ses défauts, Mbappé, mais quel joueur n'en a pas? On disait pas la même chose Messi à Barcelone quand il marchait et qu'il défendait pas, personne ne lui disait.
Même Cristiano n'a jamais été un.
En mettant dans l'axe, il peut se permettre d'avoir un 4-3-3 et non un 4-2-4 avec un Vitinha qui colle sur le côté à gauche. Moi, je suis désolé, en mettant dans l'axe, ça règle pas mal de problèmes.
Après, on peut essayer. Hein. Oui. On joue un mois sans Mbappé, on regarde ce qui se passe.
Ah, bah oui, bien sûr. Essayons-le. Tiens, on l'a vu la semaine dernière.
Les deux premiers matchs de la saison.
Mais oui, on l'a vu la semaine dernière. On avait Neymar et Messi qui mettaient pratiquement autant de buts que lui en première partie de saison. Et pourtant, lorsque Kylian Mbappé est parti, on n'arrivait plus à marquer, on n'arrivait plus à gagner. On a perdu contre l'OM d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, première défaite en Coupe de France.
Ouais, il n'était pas là.
Donc, si vous voulez, les gars, il n'y a pas de souci. On enlève Kylian, il n'y a pas de
gagne. Qu'est-ce que t'en penses, Rico?
Le Barça et le Real ont gagné des années et des années avec des Ronaldo et des Messi qui défendent pas. L'Argentine, pareil. Donc non, pour moi, bah, l'équipe de France, elle a gagné, avec, fait deux finales de Coupe du Monde avec Mbappé. Il y a la solution Rabiot qui défend justement. Après, nous, c'est un peu différent parce que Vitinha, c'est pas Rabiot. Mais non, bien sûr que non, pas sur le banc. Après, trouver où il est le mieux, où est-ce qu'il pourrait être le moins préjudiciable parce que oui, il défend pas. Est-ce qu'on le met neuf, est-ce qu'on le met à gauche? Ça peut être une question, mais sur le banc, non, évidemment que non.
Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu son avis et son analyse par rapport à la situation de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat, c'est assez flou.
Ouais.
Est-ce que vous comprenez sa frustration?
Moi, je comprends pas. Ça fait 6 ans qu'il est là. Qui est resté 6 saisons d'affilée au PSG?
Ça fait même 7. Il y en a beaucoup, qui sont comme notre auditeur, qui sont énervés par Mbappé. Donc je peux comprendre la frustration du jeu qu'il fait. Est-ce que je reste pas? Mais tant qu'il est là,
Moi, je suis désolé. Moi, si tu me parles du comportement de Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup, Kylian Mbappé. Hein. Je trouve que au moins il s'impose, etc. Mais son comportement, il est exécrable. Tu vois ça, j'en parle sur Twitter.
À quel point de vue il est exécrable?
Non, mais des fois il y a des petits pics qui va lancer, etc. Des manières de parler. Alors cette saison, il y a rien à dire. Cette saison, je trouve qu'en termes de comportement, il y a rien à dire. Par contre, les saisons dernières, moi, je peux comprendre que les mecs soient saoulés. Moi personnellement,
tu veux dire
déjà il y a eu ça, mais même avant même le Pivot King, pour moi, il y a une déclaration. Je suis joueur de foot, je te jure, il arrive dans le vestiaire. Je l'insulte de ouf. Quand il vient et qu'il dit ces histoires de « il lève les yeux au ciel, ouais, on va jouer avec nos armes, ouais, patati patata, plafond de verre », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, toi, tu mets des buts, c'est très bien, mais il faut arrêter de croire que t'es le seul joueur de l'effectif. Quand nous, tu fais pas tes replis, etc., et que nous, on se casse le cul pour récupérer le ballon et te l'envoyer devant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on est des mauvais joueurs. En fait, nous, en tant que supporter, on peut se permettre d'avoir ces réflexions-là. Lui, en tant que joueur, vu que c'est un acteur, il peut pas se permettre d'avoir ce truc-là. Et ça, je peux comprendre que certaines personnes soient frustrées par rapport au comportement qu'il a eu les saisons durant. Cette saison, pour moi, il n'y a rien à dire. Il n'a rien fait. Le gars, il est exceptionnel. Comportement exemplaire. Il a une âme de leader avec l'effectif, etc. On le sent. Parfait. Maintenant, voilà. Me dire qu'un joueur que tu as dans ton effectif s'appelle Kylian Mbappé, qui te met 19 buts en Ligue 1.
Tu vas le mettre sur le banc.
L'un des meilleurs buteurs d'Europe, qui finit le meilleur buteur ex aequo d'Europe. Même du monde, parce que moi, vous n'allez pas me faire croire que l'autre avec 53 buts, c'est le meilleur buteur en Arabie Saoudite. Pas à moi, les gars. Pas à moi. Donc, c'est le meilleur buteur d'Europe ex aequo avec Harry Kane à 52 buts. Les gars, et vous voulez mettre ça sur le banc? Ok, d'accord. Bah, allez à Madrid à l'époque, remontez le temps, devenez coach et mettez CR7 sur le banc. Si Florentino Pérez, à la minute même, il ne te fait pas sortir, il ne te dégage pas par la petite porte, tu vois pas, à coup de pied au cul. C'est que je connais pas le football.
Si on essaye de poursuivre et d'aller plus loin par rapport à cette note vocale, par rapport à l'avenir de Kylian Mbappé, vous en pensez quoi?
Bah déjà, il a déclaré que s'il prolongeait, ce sera à long terme et pas à court terme. Parce que c'est ça aussi le problème avec Mbappé, c'est qu'il est très égoïste et que du coup, il veut gérer sa carrière et que du coup, il n'y a eu que des petites prolongations. Il veut tout gérer, ses droits d'image, etc. Donc, c'est assez complexe. Rien que là, il veut pouvoir jouer l'Euro et les JO. Donc voilà, c'est complexe. Maintenant... à voir ce qu'il va faire.
Le dernier qui a fait Euro plus JO, c'était compliqué pour maintenant.
C'est Pedri.
Mais, ouais, oui, non, mais après, Pedri ne fait pas les mêmes efforts que Mbappé.
Et JO plus Copa, ça a été compliqué aussi.
Mais après, quand tu as les JO dans ton pays, c'est normal de vouloir les jouer. Quand tu es une star comme Mbappé, voilà, il y a des Brésiliens qui l'ont gagné, ils étaient très contents. Donc, je peux comprendre qu'il ait envie de représenter la France pendant les JO. Maintenant, la question se pose. Il va falloir que ça se rétablisse quand même assez rapidement. Maintenant, moi, je pense qu'en interne, ils le savent au fond. Que ce soit lui ou Nasser, ils ont déjà un arrangement, qu'ils partent libres et qu'ils laissent ses primes ou qu'ils prolongent. Mais je pense qu'ils le savent.
On a Iki. Alors déjà, je vais remercier Harry Hung qui a fait un don de 7 $. Voilà.
Merci.
Donc, ça sera reconverti en euros prochainement.
Juste, si je peux me permettre, juste sur le contrat, moi, je trouve que le club a quand même bien travaillé cette saison. Tu vois, je pense que si Kylian Mbappé, ça venait à partir... je pense qu'il y a de quoi le remplacer. Tu vois, il y a une base quand même assez solide. Demain, tu vois, tu ramènes un Léao à gauche, ou autre. Je dis pas qu'il sera meilleur que Mbappé, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais en fait, c'est moins préjudiciable que les saisons précédentes. Si l'année où Kylian Mbappé prolonge pas,
oui.
Un bon courage pour chercher un autre joueur. Avec les masses salariales que tu avais, c'était une galère. Là, grâce à Dieu, on a bien travaillé quand même autour. On sera pas du même niveau. On va peut-être sûrement perdre la Ligue 1, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, on aura l'opportunité de se dire que d'ici dans les 2-3 années qui suivent, on aura un joueur efficient qui pourra venir.
Peut-être que Ramos jouera du coup en neuf.
Sûrement.
Toi, Jean-Marc, est-ce que tu vois qui Mbappé rester?
Alors, je n'ai pas spécialement d'informations, mais ce que je sais, c'est que s'il part, il aura donné assez. Et s'il reste, on sera content. L'année dernière, j'avais vraiment pas envie qu'il parte. Tout le monde pensait, parce qu'on est quand même dans un pays de pleureuses et de négatifs au possible. Donc tout le monde le voyait partir. Moi, j'étais le dernier à dire non, non, il va rester. Puis j'ai fait la hola tout seul. Et là, j'ai changé un peu d'avis. Je me dis, bon, il a 25 ans. S'il part maintenant, on ne pourra pas lui reprocher. Surtout s'il y a l'arrangement. Je pense que t'as tout à fait raison, il y a un arrangement. En même temps, moi, c'est pas mon pognon, donc je m'en fous. Ah bah oui. Qu'il n'y ait pas d'arrangement, j'en ai rien à foutre. J'ai toujours du mal à comprendre les supporters qui disent « Ouais, mais c'est un préjudice pour le club s'il s'en va alors qu'il vaut 100 millions. » Eh les gars, oh, c'est votre pognon, c'est pas votre
non,
pognon.
Non, mais c'est pas ça. Mais
l'émir, ça va, il a du pognon, il n'y a
dans
pas de problème.
Dans le bilan comptable, ça peut être préjudiciable parce que après, derrière, tu ne peux pas te retourner.
Ça, oui, moi, je suis désolé, l'histoire de partir libre, l'oseille pour le club, moi, je suis d'accord.
Enfin, à moins qu'on soit Lens, tu vois.
Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'à un moment, si on voulait avoir un chèque, il fallait le vendre quand le Real Madrid a fait l'offre. On ne l'a pas fait. On l'a prolongé 2 ans. On se retrouve dans cette situation-là. C'est le club qui s'est
mis. Ah, ben c'est la faute du club.
C'est même pas une faute parce qu'ils l'ont prolongé. Les gars, il y a des réalités économiques qu'on ne connaît pas. Ça se trouve, le club, ils s'en foutent d'avoir 200 millions pour Kylian Mbappé, les gars. Et je pense que le club s'en fout totalement. Tu vois. Donc maintenant, voilà. En plus, apparemment, il a un deal avec le club pour éviter que le club soit dans une galère, etc. Donc très bien, libre à lui. Si par libre, moi, c'est pas sur ça que...
Je voulais juste rebondir, vous allez dire que je suis un inconditionnel, mais c'est vrai. Quand tu dis qu'il est égoïste, je sais pas si c'était un jugement de valeur, mais c'est quand même un défaut d'être égoïste. Et moi, je trouve pas... C'est-à-dire, tu dis... Combien de joueurs sont restés au PSG? Je sais pas, moi, je suis un vieux. Donc, quand tu regardes des Leonardo, des Djorkaeff, que les supporters adulaient, ils sont restés une saison, les mecs.
Bien sûr.
Ça fait 7 saisons qu'il est là.
Toutes les plus grandes stars ont été traitées d'égoïstes.
Oui.
C'était tellement plus facile de partir au Real pour gagner la 15e ou la 16e Ligue des Champions.
Moi, le seul truc qui me reste en travers de la gorge, comme je l'ai dit, c'est certains comportements qu'il a pu avoir. Mais sur le terrain, je suis désolé. Moi, il n'y a rien à dire. Kylian Mbappé, pour moi, est arrivé en tant que gamin et est reparti en tant que légende. C'est une vérité. Qu'il parte aujourd'hui, même s'il part à la minute même où j'en parle, c'est une légende. Avec tout ce qu'il a gagné, le meilleur buteur du club, etc., il est venu en tant que truc.
Et c'est un truc de dingue aussi de s'interroger sur l'ingratitude des supporters de Paris en général. Le mec, il a mis 5 saisons, peut-être 5 saisons et demie, à avoir son champ.
C'est ça.
Alors que Choupo-Moting, il a eu son champ. Choupo-Moting. Comment c'est possible?
Mais c'est vrai que je comprends cette frustration de certains supporters de se dire « Ah, c'est un gamin de la ville et il nous a pas apporté ce que la ville attend depuis de longues années. »
Il a rien à leur apporter en soi.
Ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien que nous, à Paris, ce qu'on attend tous, les gars, c'est la Ligue des Champions.
Oui.
Et forcément, tu vois, il y a une symbolique.
Les
gens ont mis cette symbolique-là sur Kylian Mbappé, se dire « Ouais, c'est un gamin de chez nous, faut qu'il nous l'apporte, etc. » Malheureusement, s'il ne l'a pas fait,
je vais faire
Thierry Henry ne l'a pas fait à Arsenal et pourtant ça ne fait pas une moins grande légende de Premier League. Hein. C'est une des plus grosses légendes de l'histoire de la Premier League.
Moi, je vais faire un parallèle qui peut paraître bizarre, mais c'est un sport collectif. S'il faisait un sport individuel en tennis, il aurait 5 grands chelems.
Mais surtout, Mbappé, on parle d'une compétition qu'on n'a jamais gagnée. On parle d'une compétition qu'on n'a jamais gagnée. Donc, on parle de l'inconnu. Donc, voilà. Moi, personnellement, en termes d'affectif, c'est vrai que je kifferais que Kylian Mbappé parte avec cette Ligue des Champions.
Bah, bien sûr.
Waouh, c'est un gamin chez nous.
C'est ça qu'il cherche en plus. Il est assez intelligent pour comprendre que s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris, ça va devenir une légende.
C'est l'histoire. Il rentre dans l'histoire.
Gagner la 15e ou avec le Real ou la 8e avec je sais pas qui ou la 6e avec Liverpool, c'est pas pareil.
Ah, je suis pas d'accord.
Bah, t'as le droit.
Bah, parce que cet argument-là, moi, je suis pas forcément d'accord parce que Cristiano Ronaldo, ils ont battu leur légende comme ça et ils ont pas gagné la première du Real. Messi n'a pas gagné la première du FC Barcelone.
Oui,
Mohamed Salah n'a pas gagné.
Oui, mais merde. Mais c'est vrai que la symbolique
n'est pas parisien. Mbappé n'était pas parisien à la base.
De la Masia.
Non, mais c'est vrai que la
symbolique. Non, de naissance, il est parisien. Donc, il a envie de la gagner avec son club. Et
puis surtout, Paris n'a pas gagné la
preuve. Ouais, non, mais c'est vrai que
Paris n'a pas gagné, tu vois.
Mais certes, il y a une symbolique qui peut être grande, mais on peut bâtir sa légende autrement que de gagner la première.
Il a envie de la bâtir comme ça. C'est-à-dire, et moi, je ne comprends pas que des supporters ne lui soient pas reconnaissants, alors que clairement, c'est ça qu'il veut, quoi.
Ah bah bien sûr que c'est ça qu'il veut.
C'est ça qu'il veut, donc c'est super gratifiant pour le
club.
Un peu
comme un petit peu comme LeBron James avec Cleveland.
L'insymbolique du gamin de la ville qui apporte le trophée attendu, c'est comme Neymar.
C'est LeBron James,
tu vois, lorsque Neymar ramène à Santos la
Copa. J'espère que ça va pas être Totti,
ça. Non mais c'est comme LeBron James avec Cleveland.
Voilà, donc c'est normal, c'est comme ça qu'on attend. Maintenant s'il a gagné ailleurs, sa legacy sera pas moins
grande. Non, elle sera pas moins grande.
Après c'est pas très grave, mais
c'est pas grave du tout. Et il faut pas oublier, parce que beaucoup de personnes essayent de le comparer à Messi ou à Ronaldo. Il a 25 ans, Benzema a gagné son ballon d'or à 34 ans. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de marge de manœuvre. C'est pas le même type de joueur, mais je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu trop durs avec Mbappé sur ses accomplissements. Et c'est pas tout le monde qui a les mêmes. On n'a pas.
Un tir au but près, là.
Ouais, puis voilà. Même ce débat aussi sur les pénalties. Ouais. Le pénalty face à Newcastle, il le met pas, on n'est pas qualifié. Le pénalty, je sais plus si Dortmund a un pénalty. Mais il a tout mis.
Les pénalties face à la France,
il l'a mis. De l'Euro, il a tout mis. Les trois pénalties en finale de Coupe du Monde, il faut les mettre aussi. Un pénalty, c'est pas aussi facile.
Mais de toute façon, le débat de pénalty.
Il le rate contre Brest, mais il marque derrière sur la.
Oui, c'est ça.
Moi, le débat sur les pénalties, je suis désolé, parce que je sais qu'on doit conclure, mais le débat sur les pénalties, moi, personnellement, je trouve que c'est un faux débat. C'est un débat de personnes qui n'aiment pas les joueurs. C'est comme quand on entend Penaldo ou Messi. Je trouve ça un peu ridicule.
C'est les mêmes qui se foutaient de sa gueule quand il tirait les pénaltys à la place de Neymar.
Je trouve ça un peu
maintenant
ridicule.
Maintenant qu'il réussit tous, il lui reproche de marquer des pénaltys.
Maintenant, il y a un truc où là, je suis d'accord avec eux. C'est que Kylian Mbappé a exactement les mêmes stats qu'il avait il y a quelques saisons. Sauf que maintenant, il tire les pénaltys. Donc, ça veut donc dire qu'à un moment dans le jeu, il marque moins. Et ça, le débat existe. Tu vois pas, le débat sur le jeu de Kylian Mbappé, c'est vrai que là je peux sur cette optique là, je veux bien l'entendre. Par contre, me dire que il met des pénaltys, c'est pour ça qu'il est premier de Ligue 1, les autres joueurs de Ligue 1 aussi mettent des pénaltys.
Jonathan David,
et ça ne dérangeait personne.
Je pense qu'on aura fait le tour de cette belle émission. On termine avec un don encore une fois de Val de 2 €. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui auront fait des dons. Je vous remercie les gars d'avoir été présents.
Je voulais juste dire un truc par je voulais dire un truc par rapport à la finale hier. On a gagné le trophée et il y a énormément de supporters qui sont genre le trophée ne vaut rien. Alors le trophée ne vaut rien. Et en fait, moi, c'est un truc qui me dérange parce que il y a deux choses. Alors, il y a la génération qui a été qui a apprécié le PSG, qui a découvert le football et le PSG depuis QSI, qui du coup a bien mangé depuis ce temps-là et qui n'a pas connu les périodes de disette où un trophée, c'était très rare et donc on était très contents. Alors oui, aujourd'hui, ce trophée-là d'hier soir n'a plus la même saveur évidemment que les premiers trophées qu'on a pu avoir ou les premiers trophées sous l'ère QSI, mais ça reste un trophée. Eux encore, je ne peux rien dire parce qu'ils ont connu que ça. Par contre, il y a aussi une grande partie d'ennemis du club, clairement, disons les termes, qui sont pro Neymar, pro Messi, pro Verratti, etc., où les joueurs ne sont plus là, qui, eux, ne veulent qu'une seule chose, c'est que le Paris Saint-Germain ne gagne pas, que le projet du Paris Saint-Germain échoue, alors qu'ils sont censés être supporters du PSG à la base. Et ça, ça me dérange. Donc, quand hier, j'entends des « ouais, le trophée, il est en bois, ouais, le trophée, il sert à rien, machin, etc. », on verra en Ligue des Champions. Comment ça, on verra en Ligue des Champions? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même discours alors qu'on est censé supporter le même club.
Après moi, c'est même quand j'ai commencé à supporter le PSG, moi, il y a eu 96, etc., mais j'étais trop jeune, donc dans les années de disette.
T'es supporter, toi.
Et j'ai toujours trouvé que c'était un trophée en bois, le trophée des champions. Comme la Supercoupe d'Europe, pour moi, les matchs, les trucs en un match, pour moi, c'est quasiment des matchs amicaux.
Oui, à la limite, d'accord. Mais sur la Ligue 1, tu verras qu'ils diront la même chose aussi.
Juste pour conclure, la dernière fois qu'on avait joué un trophée des champions en janvier, c'était déjà un 3 janvier, c'était
à Marseille.
En 95-96.
Non, face à Marseille.
C'était l'année où on gagne la Coupe d'Europe.
Non, on l'a fait en 2020.
Ah oui, oui. Le 3 janvier. Un 3 janvier.
Contre Marseille.
Et c'était en février contre Marseille. Ouais. C'était pas en janvier.
Et j'étais au stade du
premier match de poker, je crois.
Et d'ailleurs, ils veulent aussi qu'on redevienne dominant sur la scène nationale. On prend un trophée de plus et ils sont pas contents. Bon.
12 trophées des champions, le club le plus titré dans cette catégorie-là. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous êtes 460. On a frôlé les 500. N'hésitez pas à liker pour cette dernière.
Ouais, likez les gars, parce que vous dormez
très,
trop là.
Très, 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 très important
gars,
de liker.
Plus longtemps, vous n'avez pas tiré les oreilles. Là.
Pour ceux qui nous écoutent le lendemain matin en podcast avec les oreilles, merci de nous écouter. On se retrouve très prochainement, on l'espère, avec Jean-Marc ici en plateau. Et on se dit à la prochaine.
Ciao. C'est pareil. Merci beaucoup. Ciao.